Histoire, actualité comme tous les vendredis dans la Fabrique de l'Histoire, actualité de la recherche, actualité des publications, rapport de l'actualité à l'histoire. Pour commencer notre émission de ce vendredi, nous ferons écho à la journée de France Culture sur les violences sexistes avec une chronique d'Amélie Meffre, Un saut dans la loi, qui nous rappellera une loi de 1832 sur le non-consentement des mineurs. Puis dans notre séquence mensuelle, la Fabrique mondiale de l'histoire, nous aurons le plaisir avec Valérie Hanin de la revue L'Histoire de recevoir le chercheur Kapil Raj, directeur d'études à l'école des hautes études en sciences sociales, qui nous expliquera pourquoi la ville de Calcutta était une ville monde dès le XVIIIe siècle. Dans la seconde partie de cette émission, Étienne Anaïm, qui dirige la rédaction de la revue Les Annales, nous expliquera pourquoi il allait désormais publier cette revue en anglais, en collaboration avec Cambridge University Press. Et enfin, comme tous les vendredis, une nouvelle séquence C'était à la une, avec le site Retro News de la Bibliothèque Nationale de France, le site donc consacré à la presse, un texte tiré de la presse de ces deux derniers siècles. Aujourd'hui, un débat de la Convention nationale de 1792 sur la dictature. Et bonjour Amélie Meffre.
Bonjour.
Et pour faire écho donc cette journée de France Culture consacrée aux violences sexistes aujourd'hui, eh bien vous allez nous parler de ce non-consentement des mineurs qui remonte bien plus loin que la loi qui va être déposée en 2018 par la secrétaire d'État chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes, Marlène Schiappa, donc un projet de loi contre les violences sexistes et sexuelles et un texte qui veut notamment créer une présomption de non-consentement pour les mineurs. Et c'est justement ce qui fut instauré, tenez-vous bien, par la loi du 28 avril 1832. Et vous nous le rappelez, Amélie.
Eh oui, en effet, on retrouve à l'époque les interrogations soulevées aujourd'hui par l'histoire de Sarah, 11 ans, ayant eu un rapport sexuel avec un homme de 28 ans. Sa plainte pour viol a été requalifiée en atteinte sexuelle par le parquet de Pontoise, considérant que la jeune fille était consentante. Or, au début du 19e siècle, cette question du consentement des enfants et donc de la violence agite déjà les tribunaux. Le code pénal de 1810 prévoit, dans son article 331, que quiconque aura commis le crime de viol ou sera coupable de tout autre attentat à la pudeur, consommé ou tenté avec violence, sera puni de la réclusion. Son article 332 précise que si le crime a été commis sur un enfant de moins de 15 ans, le coupable subira la peine des travaux forcés. Mais bon, la loi ne sanctionne alors que des actes commis avec violence. Si celle-ci n'est pas démontrée, les accusés sont absous ou acquittés. Et il se trouve que les présidents des cours d'assises se plaignent auprès du garde des Sceaux de la clémence des jurés et réclament que l'on transforme la loi. Alors l'historienne Anne-Claude Ambroise Rendu rapporte plusieurs doléances de ces magistrats. C'est le cas par exemple du président de la cour d'assises d'Amiens en 1824. À la suite d'un arrêt d'absolution qu'il a dû rendre, il note, je cite, « que les jurés lui ont fait regretter que le législateur n'ait pas déterminé un âge au-dessous duquel la violence serait toujours censée exister. »
1824, donc.
1824. Il s'interroge. Un enfant peut-il se défendre et laisser des traces qui attestent sa défense? Peut-on conclure, comme on l'a fait, que s'il n'y avait pas de consentement, au moins il n'y avait pas de résistance et par conséquent pas de violence? Bref, beaucoup d'hommes de loi réclament comme lui une nouvelle sanction. Même si la violence physique ne peut être prouvée, qu'on prenne au moins en compte la violence morale et qu'on punisse davantage les auteurs de ces crimes. Mais ce qui est en jeu dans ce déni de justice, ce n'est pas tant la souffrance de la victime comme aujourd'hui, hein, que l'atteinte aux bonnes mœurs. Cette idée est déjà présente dans le discours de Monseilla, un des rédacteurs du code de 1810. Je le cite. « Le plus grand des attentats qui puisse outrager les mœurs est celui qui emploie la force et l'audace contre la faiblesse et la pudeur. En fait, le risque de corruption morale est plus grave que l'acte lui-même. » Alors, comme le rappelait Anne-Claude Ambroise Rendu, on rechigne à condamner un homme pour viol, et donc à une peine de travaux forcés, pour ce que beaucoup considèrent à l'époque comme un moment d'égarement. Autre élément à prendre en compte, si la plupart des accusés sont poursuivis pour attentat à la pudeur et non pour viol, c'est qu'à l'époque, les médecins, comme les juges, estiment que la disproportion entre les organes sexuels d'un adulte et ceux d'un enfant rend impossible le viol. Mais bon, l'attentat à la pudeur sur mineurs n'en est pas moins scandaleux. Et si nombre d'affaires sont classées sans suite, on réprime tout de même. Pour la période 1825-1831, le pourcentage d'acquittement en matière d'attentat à la pudeur est de 37%, alors qu'il dépasse les 50% pour les autres crimes. Et donc c'est à l'occasion de la révision du code pénal de 1832 que les choses vont évoluer. D'une manière générale, le monde judiciaire déplore le trop grand nombre d'acquittements prononcés du fait d'une grande sévérité du code pénal de 1810. Le garde des Sceaux, Félix Barthe, déclare en 1831, en présentant aux députés le projet de réforme pénale, « Le jury s'habitue à faire peu de cas de sa propre sincérité, il se parjure de peur d'être cruel. » Et donc cette révision du code par la loi du 28 avril 1832 va tenter de modérer la dureté des textes. Elle supprime par exemple cette révision les peines corporelles et même la peine de mort pour une dizaine d'incriminations. Elle instaure aussi des circonstances atténuantes pour tous les crimes et délits.
Et pour ce qui est des crimes sexuels sur mineurs, eh bien la loi de 1832, Amélie, innove.
Elle innove
en créant justement l'attentat à la pudeur sans violence.
Voilà. Son article 331, qui est donc mis en avant, prévoit que tout attentat à la pudeur, consommé ou tenté sans violence sur un enfant de l'un ou de l'autre sexe, âgé de moins de 11 ans, sera puni de réclusion. Ce n'est donc plus au regard de la loi la violence physique qui importe, mais l'âge de la victime. Mmh. Dès lors, avant 11 ans, la question du consentement semble automatiquement écartée. Et pourtant, elle continue à être inlassablement évoquée lors des procès. On recherche toujours les traces de la résistance de l'enfant, on s'interroge sur sa provocation et sa séduction. Les préjugés, finalement, sont tenaces et les jugements rendus s'écartent du code pénal. Mmh. Avec l'introduction des circonstances atténuantes, les peines sont dispersées, parfois incohérentes. L'historienne, donc, Anne-Claude Ambroise Rendu, cite le cas de Nicolas B., accusé d'attentat à la pudeur sans violence sur sa nièce de 5 ans, qui bénéficie en 1865 des circonstances atténuantes au motif que sa victime n'a pas été déflorée. Or, l'homme était inculpé pour attentat sans violence et non pour viol, la question de la défloration n'aurait pas dû se poser. Mais elle se pose quand même pour juger de la gravité de l'acte. Les jurés comme le personnel judiciaire rechignent à accepter et à utiliser la notion d'attentat à la pudeur sans violence. Pourtant, elle est réaffirmée, cette notion. L'âge au-dessous duquel un enfant ne saurait consentir est relevé à 13 ans en 1863 et à 15 ans en 1945. Mais cette invention législative de 1832 va disparaître lors de la réforme pénale de 1994. Elle pourrait bien réapparaître dans les mois qui viennent.
Merci beaucoup Amélie de cette chronique et on conseille nos auditeurs donc de lire Anne-Claude Ambroise Rendu, l'histoire de la pédophilie. Merci beaucoup, vous revenez le mois prochain pour une nouvelle séquence, Un saut dans la loi.
France Culture, La fabrique de l'histoire, Emmanuel Laurentin.
Une fabrique de l'histoire qui, comme tous les mois, reçoit le magazine L'Histoire à sa rédactrice en chef. Bonjour Valérie Hanin.
Bonjour Emmanuel.
Pour cette coproduction qui s'intitule donc L'Histoire mondiale, donc fabrique de l'histoire mondiale, ici même dans la fabrique de l'histoire, où nous nous interrogeons, comme tous les mois, sur la mondialisation de l'histoire en cours. Et nous avons le bonheur aujourd'hui de recevoir le chercheur, directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales, Kapil Raj. Vous nous le présentez.
Oui, Emmanuel, cela peut sembler une provocation, c'en est une à certains égards, une provocation à regarder le paysage en changeant un peu de point de vue, à décentrer le regard, ce qui est bien l'un des objectifs de l'histoire mondiale quand elle est bien faite, montrer que le cadre national est parfois une contrainte trop forte qui nous prive de comprendre les logiques à l'œuvre, quelquefois dans la vie des gens, des idées ou des peuples. Alors Kapil Raj, vous êtes un grand historien des sciences, directeur d'études, comme vous le disiez Emmanuel, à l'EHESS, au Centre Coiret. Vous co-dirigez le deuxième volume de l'histoire des sciences et des savoirs au Seuil en 2015. Et vous avez publié en 2007 chez Macmillan un très joli petit livre, Will Locating Modern Science. On reparlera de ce titre peut-être tout à l'heure. Votre sujet, c'est la manière dont circulent et se construisent les savoirs, spécialement entre 1650 et 1900, entre l'Asie du Sud et l'Europe. Vous vous attaquez notamment au diffusionnisme, c'est-à-dire la théorie qui voudrait que la circulation se fasse à partir du XVIIIe siècle, toujours dans le même sens, à partir de la ville européenne, berceau de la modernité, par un transfert en situation coloniale, Calcutta par exemple, avant que ne s'opère une réappropriation des sciences par les élites indigènes, plus ou moins formées par la métropole. Tout autre est votre approche. Vous êtes, Kapil Raj, attentif au contraire au dynamisme propre de la situation coloniale, et notamment à la force des lieux, et à leur génie propre, à la liberté d'action des acteurs, à leur capacité d'innovation à toutes les échelles, à tous les niveaux, à leur stratégie de négociation. Et vous avez choisi Calcutta, et c'est une sorte de... Enfin, c'est un sujet absolument en or. Bravo d'avoir trouvé ce sujet. La ville, en effet, ne ressemble pas à beaucoup... Enfin, est un cas exceptionnel. Elle est fondée en 1690 dans les marécages du delta occidental du Gange par l'East India Company, la compagnie orientale des Indes, qui tout simplement a besoin d'entrepôts alors que le delta est en train de s'envaser. En 1757, profitant de l'abaissement de l'Empire mongol, la compagnie prend possession du Bengale. Et puis une terrible famine fait que, assez logiquement, en 1773, la province passe directement sous la tutelle de la couronne britannique. Alors, ce que vous montrez, Kapil Raj, et qui est une histoire totalement exceptionnelle et vraiment très exemplaire à certains égards, c'est comment un comptoir commercial en situation coloniale peut devenir, en moins d'un siècle, la deuxième ville de l'Empire britannique, après Londres, et, ce que vous dites, une véritable capitale scientifique. Mmh. Alors, racontez-nous un peu quelles sont les dynamiques à l'œuvre qui permettent, quel est le génie du lieu qui fait qu'on assiste à l'éclosion au début du XVIIIe siècle de cette capitale scientifique, Kapil Raj.
Merci. Cette extraordinaire introduction et synopsis de mon travail. Je ne serais pas capable de le faire aussi bien. Donc, voilà, c'est-à-dire que la question d'abord, Calcutta, je vais dire deux mots sur le choix de cette ville. Ce n'était pas évident et ce n'était pas une suite logique de mon travail, mais c'était plutôt en fait en réponse à mes critiques. Parce que quand ce livre « Relocating Modern Science » est sorti, il a été bien sûr très bien reçu, mais seulement avec une certaine critique qui venait de partout. Bien sûr, de l'Europe, de l'Occident, mais aussi de mes collègues indiens, qui disait que oui, c'est vrai, c'est-à-dire qu'il y a cette capacité de négociation scientifique parce que l'Inde est une grande civilisation scientifique qui rencontre une autre grande civilisation européenne. Et donc, la tradition fait que, comme pour les Chinois, la science, en fait, cette rencontre est féconde. Et pour moi, en fait, cette image cachait une certaine représentation de la science vue du côté de la civilisation, comme si c'est toujours une rencontre entre des grands.
Oui, alors ce que vous expliquez dans votre travail, Kapil Raj, c'est que tout concourt à la science. Ce sont les marchands, ce sont les petits fonctionnaires, ce sont tous les individus qui vivent dans une même cité comme Calcutta, Kapil Raj, concourent à la rendre une cité du savoir et de la science, en l'occurrence, et pas simplement les grands savants.
Exactement. Alors, donc, c'était toujours, en fait, cette idée civilisationnelle, cette image, c'était comme si il y avait un Superman européen qui rencontrait un Batman indien, scientifique, bien sûr, tous les deux, et que c'était le bagarre, et que c'était ça, en fait, donc une confrontation. Et pour moi, justement, c'est une autre vision de la science, une vision nourrie par les travaux, en fait, et par les réflexions d'un grand sociologue, économiste, historien des sciences, Michel Calon, donc, qui était le directeur du Centre de sociologie de l'innovation de l'École des mines, et qui, lui, en fait, avec ses collègues, surtout lui, avait en fait postulé une autre façon de voir la science. C'est-à-dire, la science, comme on le voit toujours, c'est la science des lieux confinés. où il y a des savants, où tout le monde partage les mêmes valeurs, les mêmes, ce qu'en anglais on appelle les civilités, on peut dire peut-être les sociabilités, mais tout est pareil.
Le laboratoire.
Quoi. Le laboratoire, le musée, un espace confiné.
Or, il y a la science de plein air, dites-vous.
Exactement, et c'est ça l'idée de Michel Calon, qu'il y a la science de plein air.
Alors, qu'est-ce que c'est la science de plein air?
La science de plein air, c'est justement où il n'y a pas une communauté hétérogène. C'est en fait...
Non, une communauté...
Excusez-moi.
Homogène. Il n'y a pas de communauté homogène.
Je reprends. Oui, il n'y a pas de communauté homogène avec les mêmes qui partagent les civilités et où le consensus peut émerger parce que les valeurs sont partagées. Nous sommes en fait face à des personnes, à des communautés, à des façons de faire qui sont maintes et variées. Alors, comment le consensus va émerger? Par quelle négociation? Et pourtant, c'est le cas de ces sciences de plein air, c'est-à-dire la botanique, la médecine, la géographie, la linguistique, les sciences de l'administration, la géologie, la géographie, etc., l'astronomie, et voilà, c'est...
Ou même, vous l'avez dit, la linguistique, c'est-à-dire que le problème, la science peut émerger, vous allez peut-être nous raconter l'histoire de William Jones, la science, la découverte de l'hypothèse indo-européenne émerge à l'occasion de règlements de problèmes qui n'ont absolument rien de linguistique, qui sont des problèmes juridiques. Présentez-nous William Jones, il part à Calcutta, pourquoi part-il à Calcutta? Que va-t-il y faire et qui fait-il vraiment?
Bon, c'est un personnage très intéressant, William Jones. Bien sûr, il est connu largement, peut-être seulement, pour cette fameuse découverte des langues ou la famille des langues indo-européennes. Pourtant, c'est quelqu'un qui déteste les langues. Et il pense que les langues, en fait, il faut les apprendre, bien sûr. Ce sont des véhicules... des savoirs, c'est tout. Il véhicule les savoirs et pour le reste, n'a aucun intérêt. Il le dit.
Il part comme juge,
mais au départ, c'est-à-dire, c'est quand même, malgré tout, quelqu'un qui spécialise dans les langues orientales. Oui. Et aussi en latin et en grec, son père, qui s'appelait aussi William Jones, était quelqu'un de l'entourage de Newton, qui a dépensé beaucoup d'argent à soutenir Newton contre Leibniz. Et son fils...
Mais lui, Kapil Raj, oui, que fait-il à Calcutta?
Mais laissez-moi juste un tout petit peu vous dire comment il arrive à Calcutta. Alors, il est, en fait, c'est quelqu'un qui n'est pas très riche, mais qui a toujours eu cette ambition, comme toute jeune personne, en fait, de devenir riche rapidement, et il cherche sa voie. Il cherche sa voie, il le trouve dans les langues d'une part, mais aussi dans les études de droit. Il devient avocat à Londres et petit à petit, en fait, il grimpe les échelles. Il a cette idée que finalement, il va terminer ses jours comme un gentleman pour lequel il doit avoir 10 000 livres, ce qui est une somme conséquente. Et pour pouvoir acheter des terres et pour pouvoir être, en fait...
Gentleman farmer.
Oui, exactement. C'est ça, l'aristocratie. Bon, en fait, pas tout à fait l'aristocratie, et donc, du coup, il part, en fait, finalement, à Calcutta pour gagner ses 10 000 livres. Parce que ses postes à l'étranger sont très, très, très bien payés, sont très prisés. Et petit à petit, il monte... Et il arrive.
Et il se trouve face à la Cour suprême du Bengale. Il se trouve face à un problème juridique. La question du parjure, donc dans la société qui est en face de lui et de la jurisprudence hindoue face à ce parjure. Et ça lui pose une question. Comment régler cette question de juge? Qu'est-ce que le parjure avec la jurisprudence hindoue?
Exactement, parce que tout le problème en fait, c'est finalement, il arrive là, il doit régler, gérer toutes sortes de différends tous les jours. Mais comment faire en sorte, comment contraindre un croyant, en fait, de notre religion, Parce que pour les chrétiens, bon, c'est plus ou moins facile, plus ou moins, je dis, parce que il y a quand même l'idée de jurer par la Bible. Pour les musulmans, bon, on invente la même chose, l'équivalent, mais le Coran à la place de la Bible. Mais pour les hindous, qu'est-ce qu'on fait? Alors, pour les hindous, on nous dit, voilà, vous prenez en fait un seau d'eau de la Gange, et si quelqu'un, donc l'eau étant sacrée, l'eau de la Gange, et si on mettait sa main dans cette eau-là, on dirait...
C'est l'équivalent de jurer sur la Bible.
Alors du coup, il y a un emploi dans le cours qui dure jusqu'au milieu du 19e siècle, qui s'appelle en fait le Gangajali Brahman, c'est-à-dire quelqu'un qui va en fait, qui gère l'eau
pour les procès.
Parce que bien sûr, deux personnes ne peuvent pas mettre leurs mains dans le même eau, donc il faut laver, il y a tout un rituel qui se développe autour de ça. Mais ça n'empêche pas les gens de mentir tout de suite après, parce que bien sûr, ils vont le faire, mais comme ça ne tient à rien, c'est-à-dire qu'il n'y a rien derrière, il n'y a pas de contrainte, c'est un acte. Bon, vous me dites, jurez sur je ne sais quoi, et puis bon, bien sûr, je vais jurer sur n'importe quoi, mais je ne suis pas tenu à cela.
Et c'est là que William Jones change d'avis sur les langues. C'est-à-dire qu'il se dit, il faut que je comprenne la langue de mes interlocuteurs, parce que sinon...
Pour pouvoir entrer dans leur texte. Et pour pouvoir, en fait, vraiment savoir comment ça fonctionne
il
vraiment.
Il apprend le sanskrit.
Il apprend le sanskrit, la langue dans laquelle tout le corpus...
Juridique,
bon, religieux, etc., est écrit. Donc, il commence à l'apprendre, il apprend avec un médecin indien qui vient d'une ville universitaire qui est juste au nord, à 150 km au nord de Calcutta. Et très vite, mais c'est parce que la façon dans laquelle le sanskrit est transmis et appris n'a rien à voir avec la transmission et l'apprentissage du latin et du grec. C'est par des morphèmes, c'est une toute autre façon, en fait, de comprendre la langue. Et dès qu'il commence à le voir comme cela, en fait, il voit que si on appliquait les mêmes critères pédagogiques pour le latin et le grec, il y a une similitude qui sort. Donc, bien sûr, avant lui, il y a quand même des gens qui avaient reconnu les ressemblances entre les deux langues. Il n'est pas la première personne, loin de là.
Il va le révéler.
Mais en fait, c'est vraiment quelqu'un qui a un système.
Expliquez-vous, Kapil Raj.
Il crée aussi la société asiatique du Bengale, qui va être une véritable société scientifique devant laquelle des gens qui ne sont pas forcément scientifiques à l'origine vont venir faire des communications. Et ça crée cet espace d'échange, de circulation très spécifique entre des Persans, des Anglais, des Hindous qui vont aboutir à certaines réalisations extraordinaires. Vous dites, Kapil Raj, que c'est en Inde, enfin à Calcutta, qu'a été dressée la première carte britannique de l'Inde, de l'Empire.
Oui, pas dans la société asiatique.
Non, hein, bien sûr.
Bien sûr, mais c'est-à-dire que c'est une ambiance qui va bien au-delà.
Qui est très stimulante.
Et d'ailleurs, si la société prend racine, c'est parce que, justement, il y a cette ambiance, parce qu'il y a des gens qui arrivent à faire ce genre de choses un peu
partout. Parce qu'il faut échanger. Parce qu'il faut se comprendre.
Il faut se comprendre, mais pas seulement ça. C'est qu'il n'y a pas des compétences partout. Les compétences, en fait, sont diverses et variées.
Et vous expliquez bien, en l'occurrence, parce qu'on pourrait croire à vous entendre à propos de William Jones, que vous êtes dans la thèse diffusionniste qui était présentée tout à l'heure, à savoir un Européen arrive et il va inventer quelque chose en arrivant dans ce territoire de Calcutta. Or, vous expliquez bien, Kapil Raj, que ça n'est pas du tout le cas, parce que justement, cet Européen a besoin des savoirs locaux, il a besoin des savants locaux, qu'il y a des gens qui écrivent en arabe classique ou en persan, et que ces gens-là vont traduire la mathématique de Newton, par exemple, pour pouvoir la faire arriver jusque chez les savants, mais un peu plus loin encore dans cet espace de Calcutta. Et vous expliquez qu'en fait, il y a bien sûr la domination coloniale. Vous ne la niez pas du tout, cette domination coloniale, Kapil Raj, qu'il y a ces savoirs qui circulent à l'intérieur de la ville de Calcutta, et que ces savoirs sont d'une certaine façon coproduits, co-construits par tous ces personnages qui sont à la fois des médecins, des savants, mais aussi des voyageurs, des marchands, des gens qui font de la traduction, etc. etc.
Oui, c'est-à-dire que Calcutta est une ville qui attire différentes personnes de part. D'abord et avant tout, ses capacités de commerce. Mmh. Hein, c'est surtout ça.
Oui. C'est un entrepôt à l'origine.
Au départ, un entrepôt, mais très vite, ça devient aussi autre chose. C'est-à-dire que ça devient un lieu...
Un grand port.
Un grand port, mais c'est-à-dire que c'est aussi un lieu de ramassage de l'argent, c'est-à-dire les banquiers qui arrivent.
Les institutions
qui s'installent, parce que tout de suite, il y a des différends entre les uns et les autres.
Et dans quelle langue se parle-t-il?
Alors, ça c'est le grand problème. C'est-à-dire que vous avez... par exemple, vous avez une communauté assez importante d'Arméniens. La ville de Calcutta doit en fait sa pérennité aux Arméniens.
Aux banquiers arméniens
qui négocient à la place des Britanniques, pour le compte des Britanniques en fait, avec le pouvoir moghol, pour que les Britanniques deviennent fermiers de l'empereur moghol sur le territoire qui s'appelle Calcutta, qui est en fait vraiment un fermage.
Ce que vous dégagez bien, oui, c'est exactement. Cette extraordinaire fécondité de ce cosmopolitisme-là.
Oui, exactement, c'est-à-dire qu'il y a vraiment, les uns dépendent des autres.
Et il faut se comprendre.
Et il faut se comprendre.
Ou ne pas se comprendre.
Pas se comprendre. Et précisément, c'est parce qu'on ne se comprend pas qu'il y a, en fait, tout de suite, l'institutionnalisation des formes de justice. Il y a la naissance des nouvelles formes pour lesquelles la traduction est absolument...
Indispensable.
Oui. Et d'ailleurs, le problème, justement, comment traduire pas de sanskrit en latin ou en anglais, mais comment traduire le parjure d'une tradition à une autre tradition. Ah oui. Comment faire? Comment
Toujours
trouver des équivalences?
Des très concrets.
Très concrets.
Et par exemple,
c'est exactement la même chose pour la carte.
Oui, par exemple, un des gouverneurs, qui est Hastings, de ce territoire du Bengale où se trouve Calcutta, à partir du moment où les Britanniques mettent la main sur l'ensemble de ce territoire, va créer une madrassa. Une madrassa, la Compagnie des Indes orientales va financer une madrassa, donc une école de tradition musulmane, parce que ils considèrent qu'il est nécessaire d'avoir des savants musulmans dans cet empire, parce qu'ils ont leur place comme tous les autres. On voit bien une tradition très différente, par exemple, des colonisations françaises à ce moment-là. Et il dit, dans un texte, il dit « La madrassa sera une source de sagesse pour tout gouvernement bien régulé en Inde comme en Perse. » Et il explique qu'il faut absolument qu'on y enseigne l'arithmétique, la logique, la rhétorique, la philosophie naturelle, comme on le fait dans d'autres madrassas, et que ça produira un savoir juridique qui permettra à chacun de s'y retrouver, pourrait-on dire, dans cette ville de Calcutta.
Oui, parce que, justement, soudain, c'est que les Britanniques, en fait, ils construisent, ou les Anglais plutôt au départ, pas tous les Britanniques, parce que c'est une partie, construisent cette ville, fondent cette ville de Calcutta, qui est une ville, un entrepôt, une ville de commerce, mais qui devient, à partir de la première année, en fait, de la guerre des 7 ans, et qui est très liée à la guerre de 7 ans, et la concurrence entre les Français et les Britanniques, et qui acquiert ce territoire. Donc, soudain, ça devient une capitale d'une énorme province qui est 10 fois la taille de l'Angleterre. Mmh. Alors, il faut le gouverner. Il faut gérer les différends, non seulement entre les commerçants de la ville, mais de toute une province. Alors donc, il faut former des juges, ce qui était formé au départ dans d'autres traditions, mais là, il fallait vraiment créer des institutions de cette nouvelle colonie.
Capitale. Valériane.
Et donc voilà. C'est bien une nouvelle méthode, enfin une méthode originale que vous appliquez, Kapil Raj, c'est-à-dire de partir du lieu, hein, relocating science. Comment est-ce qu'on traduirait science en contexte? Vous faites quoi, de la micro-histoire globale? Enfin, vous.
Oui, c'est une micro-histoire globale, et c'est ça aussi l'idée en fait de relocating, parce que une des idées forte de la nouvelle histoire des sciences qui a émergé depuis une quarantaine d'années, c'est de dire que la science n'est pas
hors contexte,
essence, ni hors contexte, ni quelque chose qui peut se comprendre en dehors de ces lieux de fabrication. Après, par plein de mécanismes, en fait, on peut l'universaliser, mais ce n'est pas de par ses propriétés épistémologique, mm-hmm, que c'est d'emblée universel. Donc, il y a une localisation. Cette localisation a toujours été en Europe. Et donc, l'idée de relocating, c'est-à-dire de le relocaliser
ailleurs,
mais c'est aussi, c'est-à-dire de reposer, parce qu'en anglais, relocating, c'est aussi de reposer des questions et de respatialiser les choses. Donc, voilà, c'est tout un ensemble d'idées qui sont recouvertes par ce terme, relocating.
D'accord.
Qui est dans le texte et qui est très difficile de le traduire.
Oui,
c'est un seul
mot. Vous l'avez bien
expliqué.
Merci beaucoup, Kapil Raj, d'être venu pour cette séquence mensuelle avec le magazine Histoire, qui ne parle pas d'Inde ce coup-ci, mais de Cuba, pour son dernier numéro qui sort
qui sort aujourd'hui.
En 60 ans de castrisme, le vrai bilan. Et on pourra vous lire dans la revue L'Histoire d'ici quelques mois.
Absolument, sur Calcutta.
Sur Calcutta.
Avec plaisir.
Et merci d'être venu.
La Silicon Valley. Du 18e siècle.
Oui, oui.
Voilà. Et donc, pour tous ceux qui lisent anglais, Relocating Modern Science, c'est donc paru aux éditions
Macmillan. 2007.
Merci beaucoup.
Ben, merci de m'avoir invité.
Une sonate de Rebecca Clark, interprétée par Philippe Duke et Sophia Rahman. Bonjour Étienne Anaïm, pour venir
Bonjour.
Dans cette deuxième partie d'émission de la Fabrique de l'Histoire du jour. Et on n'est pas très loin du sujet qu'on a abordé aujourd'hui, à savoir la question des sciences et de leur diffusion, les sciences historiques en particulier. Vous êtes le directeur de la rédaction des Annales, la grande revue fondée par Marc Bloch et Lucien Febvre, qui, pour la première fois, est publiée en papier, parce qu'elle était publiée depuis 2012 sur le net en anglais, mais là, un numéro en papier est publié en langue anglaise avec les Cambridge University Press. Pourquoi avoir procédé à ce changement? Vous n'êtes pas la première ni la dernière, j'imagine, revue française d'histoire à le faire. Je crois que les Annales historiques de la Révolution française font déjà deux numéros en anglais par an. Mais néanmoins, cette revue phare qui est les Annales, passant en langue anglaise, ça paraît étonnant.
Alors Emmanuel, il faut préciser tout de suite, parce que vous êtes en train de faire peur à toutes ceux et celles qui nous écoutent, que les Annales sont toujours en français.
Mais bien sûr.
Mais qu'elles sont aussi en anglais maintenant. C'est-à-dire que c'est un projet d'édition bilingue. Mais si. Un projet d'édition bilingue, en fait, qui est né maintenant il y a presque une dizaine d'années pour son origine, puisque dans les années 2000, l'équipe des Annales a fait le constat que, à la fois, il y avait un transfert des lecteurs de l'édition papier vers l'édition électronique, et puis d'autre part, du français vers l'anglais, c'est-à-dire que le lectorat international était malheureusement de moins en moins francophone.
Oui, c'était il y a quelques années d'un grand congrès international, le fameux congrès mondial des historiens, tous les 4 ans, au cours duquel des historiens français s'étaient étonnés de voir qu'effectivement il y avait de moins en moins de publications et surtout moins en moins de communications en français et que la langue anglaise avait envahi tout. Et Jean-François Cirinelli faisait partie de ceux qui en étaient navrés à cette époque-là. Mais on ne peut pas faire autrement que de se conformer à cette idée, peut-être.
Disons qu'en tout cas, notre constat, c'était qu'on ne peut pas faire autrement que de considérer que l'anglais est devenu, à l'échelle internationale, la langue véhiculaire de communication scientifique. Ce qui ne veut pas dire, en particulier en sciences humaines et sociales, qu'il faut arrêter de penser dans la diversité des langues. Et c'est pour ça que notre projet a son sens. C'est-à-dire que notre idée, c'est d'articuler une édition française des Annales qui continue et une édition anglaise qui permette de faire connaître très largement le type de travail que nous menons dans le cadre des Annales. Et j'insiste sur ce point parce que, si vous voulez, c'est un des éléments importants de la réflexivité des sciences sociales. Il y a des années que les chercheurs travaillent sur l'histoire du livre, l'histoire des savoirs, et ces savoirs-là, il faut se les appliquer à nous-mêmes. C'est-à-dire, si nous ne réfléchissons pas à la manière dont nous diffusons sociologiquement, dont nous fabriquons économiquement nos objets scientifiques, alors nous perdons l'occasion de fabriquer l'avenir de nos propres sciences. Mmh. Et notre idée aux Annales, ça a été de réfléchir à la façon dont le passage à l'anglais, tout d'abord sous une forme électronique et aujourd'hui sous une forme papier, pouvait être une manière de continuer le projet des Annales à une échelle internationale.
Mais alors, qu'est-ce qu'on trouve dans ce numéro, par exemple, des Annales en anglais qui vient tout juste de sortir ? Est-ce que c'est la traduction exacte du numéro en français qui sort à la même époque, ou est-ce que c'est très différent, Étienne Anaï ?
Alors, c'est un projet qui repose sur l'idée d'avoir une édition bilingue intégrale de toute la partie article. En revanche, ce qui n'est pas encore traduit en anglais, c'est la partie compte-rendu. On espère pouvoir le faire un jour, mais ça nécessite un investissement, j'y reviendrai peut-être, un investissement de temps, de travail et d'argent encore bien supplémentaire. Donc, une traduction intégrale, mais décalée d'un an, c'est-à-dire que le numéro 2017-1 vient de sortir en français avec l'histoire de l'esclavage, de l'archéologie romaine, des travaux sur le Moyen-Âge ou sur le keynésianisme. Et au même moment, le numéro 2016-1, qui était paru en français il y a un an, puisqu'on garde la version française comme une sorte de primeur, le numéro 2016-1 vient de sortir en anglais. Et dans ce numéro, c'est un numéro qui est très intéressant pour comprendre qui écrit aujourd'hui dans les Annales. Puisque finalement, c'est un numéro de varia, c'est-à-dire qu'on a des textes sur des sujets assez différents, et on trouve là, côte à côte, des travaux, par exemple, sur la guerre et l'État au XVIIIe siècle, avec Steve Pinkus et James Robinson, qui sont profs à Yale et à Chicago. Un dossier très intéressant sur la géographie de la Première Guerre mondiale à l'échelle internationale, avec Olivier Compagnon, qui est professeur à Paris 3, et Pierre Purseigle, qui est un Français, prof à Warwick, en Angleterre, qui coordonne un dossier dans lequel écrivent des auteurs qui sont à Rhodes comme Tait Keller et à Stanford comme Priya Satya. Et puis enfin, un dernier volet avec Nicolas Delalande, qui est à Sciences Po, qui travaille sur la dette française dans l'entre-deux-guerres, et puis Juliette Cadio à l'EHESS, qui travaille sur les avocats soviétiques sous Staline. Donc vous voyez, cette science internationale, elle se constitue de rencontres, de métissages et de transformations à l'échelle mondiale du savoir.
Mais vous voyez bien que dans un moment comme celui que nous vivons aujourd'hui, donc où l'Académie française hier envoie un message en disant que l'écriture inclusive est en train de tuer la langue française, ce débat qu'il peut y avoir sur la question de l'écriture inclusive et de cette capacité d'avoir à la fois dans un même texte du masculin et du féminin, on pourrait vous dire, mais qu'est-ce qu'on fait ? On brade la science française parce qu'on ne parle plus en français. Alors évidemment, comme il y a les deux éditions en français et en anglais, vous avez déjà répondu à cette critique, mais néanmoins, et on pourrait dire, voilà, notre science historique qui est née et qui a dominé le XXe siècle, dit-on, avec les Annales en particulier et l'œuvre de Fèvre et Bloch et leurs successeurs, est en train d'une certaine façon de s'anglo-saxoniser.
Alors, c'est une question très importante à laquelle effectivement j'ai commencé à répondre en soulignant l'importance de continuer à penser dans les différentes langues des sciences sociales et en particulier pour nous de continuer à penser en français. Mais à cela, il faut répondre à un certain nombre de choses. Tout d'abord, le fait que dans l'histoire des sciences du XXe siècle, en histoire comme dans d'autres domaines, les revues scientifiques ont écrit dans un nombre de langues assez élevé. Et puis petit à petit, on est actuellement dans une forme de raréfaction qui va vers l'anglais. Face à cette situation, dans des domaines dans lesquels la France a été pionnière, je pense aux mathématiques, je pense à certains secteurs de la médecine, les revues françaises ou de langue française ont quasiment disparu. Nous, notre idée, c'est que les Annales aujourd'hui sont encore une revue de référence à l'échelle internationale. Et on voudrait que ce soit pour l'histoire l'équivalent de Science ou de Nature. Mais si on veut que ce soit possible, c'est-à-dire si on veut que les gens continuent à lire la science qui se pense et qui s'écrit en français, alors il faut aussi lire les travaux des autres dans d'autres langues et les donner à lire dans une langue véhiculaire qui est l'anglais.
Avec une difficulté, on l'imagine, c'est la question de la traduction. On sait combien il y a une certaine lenteur des éditeurs français à traduire des grands textes qui sont publiés dans d'autres langues que le français, que cela coûte cher et que les éditeurs disent qu'il n'y a pas de rentabilité souvent à le faire, puisque beaucoup de nos lecteurs qui lisent nos livres lisent aussi l'anglais, par exemple. Qu'est-ce qu'il faut penser de cela ? C'est l'effort de Cambridge University Press qui est derrière tout cela, Étienne Anaïm ?
Alors, c'est un effort qui dépasse Cambridge University Press et qui, là aussi, prend sa racine dans le tout début du projet, autour de 2010, où Antoine Lilti, qui dirigeait à l'époque la revue, et moi avons commencé à concevoir cette idée. Au départ, en fait, on a bénéficié du soutien du CNRS, qui a développé un programme d'aide à la traduction. Et je crois que la traduction, c'est très important et qu'en France, on sous-estime la question à la fois de la traduction entrante et sortante. Grâce au CNRS, on a pu lancer cette édition en ligne, en anglais. On a reçu également le soutien de la Fondation Gould. Et puis surtout, on a reçu le soutien des éditions de l'EHESS et de l'EHESS en tant qu'institution à travers des postes. Parce qu'il faut se rappeler qu'une revue, c'est toute une équipe. C'est pas simplement un directeur, des auteurs, c'est un comité de rédaction. Et c'est une équipe éditoriale, en français et en anglais, d'éditrices qui travaillent. Et grâce à ce système, on a pu développer, sur l'anglais en particulier, une équipe de traducteurs qui sont financés et une coordinatrice qui s'appelle Chloé Morgan qui travaille avec des membres du comité de rédaction, Steve Sawyer, Nicolas Barrère, pour garantir la fluidité de ces traductions, leur rythme et leur qualité. Et Cambridge University Press, si vous voulez, pour nous, ça a été le contrat qui a permis d'abandonner la subvention du CNRS, parce que on est bien conscient qu'on a reçu beaucoup d'argent du CNRS comme d'autres revues, mais qu'il est important que ça bénéficie maintenant à d'autres revues et d'autres projets éditoriaux, et de faire porter finalement sur la diffusion économique de la version anglaise le coût de traduction.
Alors, le rêve pour la directrice d'une autre revue qui s'appelle L'Histoire,
Valérie Anna. De traduire l'histoire en anglais, ça viendra peut-être, et je suis très sensible à ce que vous dites, Étienne Anaïm, de la nécessité de continuer à penser en français, mais de traduire. Mais alors, ma question, ce serait qui est le William Jones de cette affaire, c'est-à-dire qui a besoin de cette traduction ? Est-ce que c'est un désir des Français, et tant mieux, de se produire aussi sur la scène internationale, et on comprend tout à fait la nécessité aujourd'hui, ou est-ce qu'il y a, enfin, quel est le désir d'histoire française en face ?
Alors, c'est une question très importante parce qu'effectivement, il suffit pas d'être traduit en langue anglaise pour être lu. Et c'est là où l'alliance avec un grand éditeur international comme Cambridge University Press, mais qui d'un autre côté est un éditeur universitaire, pas un éditeur prédateur, est pour nous d'un grand prix parce que Cambridge University Press rend lisible et visible notre édition anglaise. Mais qui veut lire ce type de texte et dans quel sens ? Eh bien, en fait, ça fonctionne dans les deux sens et ça a été la surprise et un des aspects de réussite du projet. C'est-à-dire que les Français sont très intéressés, évidemment, de soumettre des articles aux annales pour avoir automatiquement une publication en anglais largement diffusée. Et on voit très bien, là, depuis un an que le projet a commencé avec CUP, l'augmentation de la consultation en ligne. Mais dans l'autre sens, les chercheurs de langue anglaise intéressés par le projet intellectuel des annales soumettent énormément plus d'articles. Et là, j'ai pris l'exemple du numéro 2016, on a des gens de Yale, de Chicago University, de Stanford, de Warwick. Donc, au fond, ça fonctionne dans les deux sens. Et je crois que l'intérêt intellectuel pour l'école historique française, comme pour l'école mathématique française, aujourd'hui est encore très vif.
Une question, Kapil Raj, vous écoutez ça avec intérêt. Est-ce que vous avez une question à poser à Étienne Anaïm, brièvement ?
Je voulais juste rajouter quelque chose par rapport à cette langue française et de William Jones et de Calcutta, en fait. J'ai publié mes premiers articles en français.
Ah, bravo!
Exactement, c'est-à-dire qu'il est important de souligner quelque chose que, en fait, la langue française permet aussi un certain type, et c'est vrai,
de récit historique.
Exactement. Moi, je suis de langue anglaise, mais je suis ici depuis 40 ans, et du coup, je suis aussi formé en français, d'ailleurs, je suis formé en français. Et du coup, c'est très important que
confrontation.
Il y a les deux, exactement.
Et d'ailleurs, dans cette question de traduction, Étienne Alain, pour conclure, ceux ou celles qui pratiquent ces traductions voient qu'il y a, on sait très bien que la traduction, c'est aussi trouver des équivalents, qu'il est parfois difficile de faire comprendre certaines choses qui ont été écrites en français dans la langue anglaise, ou au contraire, qui sont écrites en anglais dans la langue française. Est-ce que ceux qui sont à l'interface de cette traduction...
Alors effectivement, c'est un problème intellectuel passionnant, et du coup, le programme des Annales rencontre des projets qui se développent à l'EHESS, en particulier un projet porté par Anne Madelin qui s'appelle Penser en langue, et on s'aperçoit qu'on est en train de produire un savoir sur les sciences sociales dans les allers-retours de traduction. Et là, il y a un travail extrêmement important, j'ai parlé tout à l'heure de toute cette équipe, qui est un travail de la science en train de se faire et qui pour nous, du coup, rend passionnante la recherche d'équivalence et la constitution d'une communauté internationale de savoir.
Et là, effectivement, on rejoint notre sujet d'origine avec Kapil Raj, c'est-à-dire ces lieux où les savoirs s'échangent et en différentes langues. Merci à vous, Étienne Anaïm, d'être venu présenter cette édition en langue anglaise et en papier des Annales. On peut le trouver sur le site des Annales, en l'occurrence, pour pouvoir se l'approprier. Alors, il faut aller sur le site de Cambridge University Press.
On peut aller sur le site des Annales ou sur le site de Cambridge University Press pour s'abonner à l'électronique, à l'anglais, au français, en papier, sous toutes les versions. Toutes les formes d'abonnement existent.
Merci en l'occurrence d'être venu pour nous parler de tout ça, Étienne Anaïm. Et nous concluons cette émission, comme tous les vendredis, par cette séquence qui s'appelle « C'était à la une » où nous demandons, en collaboration avec les chercheurs de la Bibliothèque nationale de France, les conservateurs de la Bibliothèque nationale de France, un article de presse donc qui a marqué son époque. Et là, nous allons partir en 1792. C'est le site Retro News qui possède ces articles de presse que vous pouvez aller voir pendant votre week-end. En 1792, une grosse discussion à la Convention nationale entre des gens qui s'appellent Robespierre, Danton et bien d'autres autour de la question de la dictature.
J'accuse les bureaux de la guerre d'avoir mené dans la presse une campagne abominable
le 26 avril prochain.
En portant ces accusations, je n'ignore pas que je me mets sous le coup des articles 30 et 31 de la loi sur la presse du 29 juillet 1881. Et c'est volontairement que je m'expose.
C'était à la une.
La Gazette. 26 septembre 1792, Convention nationale. Cette séance ouverte à 9h du matin n'a été terminée qu'à 6h du soir. Il n'a été rendu qu'un seul décret qu'on aurait pu rendre en 2 minutes. Le reste du temps a été rempli par des débats particuliers. Ces débats, où il n'a été question que de conspiration, que de complot pour arriver à la dictature, au triumvirat, que de poignarder, que de faire tomber des têtes, ces querelles qu'à chaque instant on s'attendait à voir devenir sanglantes, ont répandu sur le sanctuaire des lois et de la liberté je ne sais quel caractère sombre et farouche qui pourrait se répandre sur la France entière si la France en était entretenue avec trop de détails. Monsieur Lavaux et Monsieur Merlin ont demandé le rapport de la loi qui a décrété hier pour la Convention nationale une force armée composée d'hommes pris dans les 83 départements. « Ce n'est pas la force armée, disait le citoyen Merlin, qui nous défendra, mais l'amour du peuple. On parle de dictateur, de triumvirat. Et moi, je jure que s'il s'élevait un dictateur, je fondrais sur lui pour le poignarder. Et qui donc, a demandé Osselin, peut tramer ces infâmes projets de triumvirat, de proscription, de dictature ? Qui ? A repris une voix. Robespierre. C'est lui qui veut la dictature et qui voudrait être le dictateur. Et si la dictature n'est pas possible parmi tant d'ambitions, c'est lui qui veut le triumvirat. On s'attendait à voir Robespierre monter à la tribune. C'est Danton qui y est monté. S'il y avait un homme qui eût ouvert son âme à l'ambition de s'élever au-dessus de la souveraineté du peuple, sa tête devrait tomber. Mais, citoyens, ce n'est pas seulement de dictature et de triumvirat qu'on parle. Un autre complot transpire encore contre la grandeur et la prospérité de la République française naissante. C'est celui de la morceler en plusieurs petites républiques. La France doit être un tout. Il faut que de Marseille à Dunkerque, des Alpes aux Pyrénées, les citoyens français se donnent la main. Je me résume et je demande, premièrement, la peine de mort contre quiconque aspirerait à la dictature. Deuxièmement, un décret qui pose comme base la Constitution, l'unité de la représentation et l'unité de la puissance exécutrice en France. Robespierre prend la parole, appuie les conclusions de M. Danton et descend de la tribune. Marat, que plusieurs fois on avait repoussé de la tribune, à ce moment, il monte. Ni Danton, ni Robespierre, ni aucun membre de cette députation n'est coupable d'avoir aspiré à la dictature. Si l'idée de la dictature est un crime, ma tête seule en doit répondre. C'est moi qui ai pensé qu'une dictature seule pouvait sauver le peuple, que le peuple soit sauvé et que je périsse. Je périrai avec joie. Vergniaud a succédé à la tribune à Marat. Je ne puis le dissimuler, a-t-il dit. Il m'est pénible, douloureux, de porter la parole d'une tribune où vient de parler un homme chargé d'un décret d'accusation. Après de longues agitations, ou plutôt une longue tourmente, la Convention passe sur ses querelles particulières à l'ordre du jour. Marat tire un pistolet de sa poche et le montrant à l'Assemblée dit « Si vous m'aviez mis en état d'accusation, je me brûlais la cervelle devant vous. » Les propositions de M. Danton sont rappelées, et la première, celle qui pose pour base de la Constitution que la République française est une, indivisible dans son pouvoir législatif et dans son pouvoir exécutif, est décrétée. Les ministres de la Guerre et de l'Intérieur ont envoyé leur démission à la Convention nationale.
Voilà, c'était à la une. Vous pouvez retrouver l'intégralité de ce texte en vous rendant sur le site Retro News. Ce texte était lu par Daniel Königsberg. Il était tiré de la Gazette du 26 septembre 1792. Comment on crée une république une et indivisible avec des gens qui s'appellent Vergniaud, Danton, Marat ou encore Robespierre. Comme d'habitude, cette émission était préparée par Francesca Fossati et Aurélie Marcet. À la technique aujourd'hui, Pierrick Monsigny. À la réalisation, Séverine Cassard. Et lundi prochain, nous nous retrouvons et nous rendrons hommage à une autre revue, la revue Critique, qui aujourd'hui, donc ces temps-ci, consacre son numéro à Michel Perrault. Nous aurons avec nous des contributeurs et contributrices de ce numéro consacré à l'historienne Michel Perrault. Mais nous parlerons aussi de l'œuvre d'une autre grande historienne, Madeleine Robériou, dans l'émission de lundi.